J'ai le plaisir pour la séquence actualité d'accueillir Janine Altounian. Janine Altounian est germaniste. Elle fait partie de l'équipe éditoriale des œuvres complètes de Freud en français, qui travaille depuis 1986 et qui vient de publier, c'est aussi un petit événement éditorial, l'interprétation du rêve. Janine Altounian, on connaît votre travail déjà aussi par deux livres qui sont « Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie, un génocide au désert de l'inconscient » et aussi le texte « La survivance », traduire le trauma collectif. Alors là, votre livre tout récent, donc l'écriture de Freud, reprend un certain nombre d'ailleurs de vos réflexions dans vos livres précédents, mais est davantage consacré au texte freudien. Vous l'appelez donc l'écriture de Freud, traversée traumatique et traduction, publiée au PUF. Alors, Janine Altounian, j'aimerais d'abord justement qu'on commence par une formule que vous avez sur cette idée d'une quatrième blessure narcissique qui serait donc, après les trois fameuses, le besoin d'une médiation pour accéder à ceux qui parlent une autre langue. Et finalement, votre livre, c'est sur la question de la médiation, d'une certaine manière.
Oui, parce qu'il y a évidemment plusieurs choses qui ont motivé en moi l'écriture de ce livre, mais une des dimensions, c'est une forme d'indignation devant les différentes polémiques qui s'engagent autour de la traduction d'une œuvre de pensée, qui est donc l'œuvre de Freud, une indignation sur le fait que ces polémiques, en fait, ne sont pas intéressantes à mes yeux. Et ce qui me frappe, c'est que dans ces polémiques, on ne voit pas suffisamment que pour passer d'une langue à l'autre, enfin c'est un problème général de traduction évidemment, on a besoin d'un médiateur. Et on oublie que lorsque le médiateur choisit une option plutôt qu'une autre, il laisse tomber quelque chose, ce qu'il est, il a parfaitement le droit de le faire, mais encore faut-il que tout le monde sache, et lui le premier, ce à quoi il renonce. Et mon livre est davantage une lumière apportée sur le déni de cette perte que sur choisir A ou choisir B. Il est question de savoir qu'est-ce qu'on choisit. Donc c'est ce que je voulais montrer par les innombrables exemples que j'ai apportés, dans lesquels je fournis au lecteur la possibilité de voir quel est le problème et comment on procède. Parce que, alors, je m'explique sur ce médiateur, c'est que dans toute écriture, on a évidemment le texte qui dénote une idée, mais il y a de nombreuses connotations. Or, lorsque l'on traduit un roman, je dirais donc, pour reprendre une métaphore, que si on donne à la dénotation une dimension, par exemple, verticale, la connotation serait de multiples horizontales. Or, ce qui se produit pour un roman, c'est-à-dire qu'on peut très bien, en traduisant la pensée, affecter le signifiant de diverses connotations, ceci évidemment rendu extrêmement difficile pour une œuvre de pensée parce que il y a une continuité des signifiants conceptuels, mais cette continuité des signifiants conceptuels se nourrit, comme pour tout écrivain, d'une matrice qui serait de l'ordre de la circulation, peut-être même affective, dans le préconscient du oui, chercheur oui, oui. savant. Et donc, la traduction ne peut pas rendre les deux dimensions.
Bien sûr.
Donc, ou bien elle peut carrément laisser tomber la connotation, ou bien elle peut faire à chaque situation quelque chose, trouver une solution locale.
Mais alors,
voilà, c'est ça.
Dans votre travail vous-même, oui. et c'est la thèse d'ailleurs de l'écriture de Freud, en tout cas une thèse forte, et j'aimerais que vous en expliquiez auprès de nos auditeurs, vous dites que la forme des énoncés dans votre projet de traduction peut visualiser les arguments de la pensée en train de décrypter le sens inconscient d'un processus psychique. Alors ça c'est quand même une thèse difficile à soutenir, en même temps forte. Alors comment vous pouvez expliquer cela, cette idée qu'il y ait une sorte de mimétisme quasi photographique entre la traduction que vous faites d'un texte et cette idée aussi que Freud donc transmet visuellement le processus inconscient qu'il est en train de décrire?
Bien, à vrai dire, je ne suis pas la première à avoir dit ces choses-là, c'est pas si étonnant. Le premier, en tout cas, dans mes lectures, ce fut François Roustan, qui parlait de la parataxe à propos d'un passage, justement, de l'interprétation du rêve. Mais je suis surprise de votre propre surprise, parce que c'est quand même ce que fait, plus ou moins, tout écrivain, et c'est ce dont parle...
Alors, Freud est donc un écrivain, là.
Oui, c'est ça, et bien évidemment...
Mais alors, est-ce que ça tient au choix d'un écrivain, c'est-à-dire à la question du style, ou bien est-ce que ça tient à la langue, c'est-à-dire à la morphologie, à la syntaxe allemande, qui permettent cette visualisation?
Oui, c'est-à-dire que Freud utilise les possibilités de la langue allemande. Il utilise de façon, je trouve, dans... Évidemment, j'ai apporté un très grand nombre d'exemples, je peux en prendre ici quelques-uns, mais il utilise, si vous voulez, cette plasticité de la langue qui forme l'abstraction à partir de radicaux extrêmement concrets, pour, à la manière, avec par exemple en faisant fonctionner les particules, pour faire avancer sa pensée à travers les mots. Alors, je vais vous prendre un simple exemple. Dans Actuel sur la guerre et la mort, il explique comment la pensée de la mort est évacuée. Eh bien, on voit comment, dans son texte, le mot de la mort se trouve évacué. C'est-à-dire que les linguistes, évidemment, ceux qui s'occupent de poétique du texte, démontrent ces choses-là très souvent. Dans le premier annoncé, il y a le mot la mort, den Tod. Alors après, dans la suite de la phrase, il ne reste plus que le pronom personnel, in, qui le remplace. Ensuite, ce substantif Tod réapparaît dans le verbe totschweigen, c'est-à-dire faire taire de façon mortelle, enfin taire. Et après, à la fin, ça se termine par den eigenen, et le mot tot a complètement disparu. Or, c'est un processus d'écriture qui, évidemment, travaille l'inconscient du chercheur qui pense, et il pense à travers cette disposition. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, ce que Freud fait dans son écriture, comme tout écrivain, c'est précisément ce qu'il nous explique dans son œuvre. C'est-à-dire que tout acte est en quelque sorte conditionné souterrainement par le cheminement inconscient des mots. Or, rien de cela ne passe dans le français, bien évidemment.
Et dans l'interprétation du rêve aussi, vous parlez des ramifications associatives qui vous permettent comme ça de traduire aussi ces formations psychiques dans le tissu textuel.
Et oui, il y a deux types de ramifications. C'est-à-dire, on me dit, mais ramifications au niveau du radical. Par exemple, si vous voulez, dans l'interprétation du rêve, il y a quatre regroupements de métaphores, je dirais, textiles. Il y a celle de l'habillement autour de Clyde, Clyde voulant dire l'habit. Il y a celle de l'enveloppe Hülle. Il y a celle du tissage, Weben, il y a celle du nouage, Knüpfen. Or, chacun de ces termes radicaux, si je prends par exemple Clyde, peut s'adjoindre de toutes sortes de particules. Bekleiden, verkleiden, einkleiden, ankleiden, auskleiden, entkleiden. Or, si vous voulez, quand on traduit, on est obligé de rompre bien évidemment cette continuité.
Bien sûr. Alors, Jeanine, une dernière question sur la définition même de la traduction et la position du traducteur. Vous dites que traduire, c'est, d'une certaine manière, transmettre un pair. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je sais aussi quand même que, avoir lu vos ouvrages précédents, pour vous, la transmission d'un texte paternel est quelque chose de très important. Mais je ne suis pas en train de vous dire que vous avez fait un transfert ou un contre-transfert.
Vous pouvez, bon, on fait toujours un transfert quand on travaille.
Bon, d'accord. Mais comment vous pouvez justifier cela? Pourquoi doit-on dire de Freud qu'il est le père de la psychanalyse? Est-ce qu'il n'y a pas une contamination ici du paradigme généalogique dans la manière d'aborder la traduction?
En cela, j'ai suivi un petit peu, si vous voulez, le monde dans lequel je vis. Freud passe pour être bien évidemment le fondateur de la psychanalyse, et les psychanalystes qui sont autour de moi et ceux qui ont été autrefois ses disciples étaient tous dans un transfert à l'égard du père, si vous voulez. Hein. Et peut-être que si je dis transmettre la parole d'un père, c'est que j'investis effectivement son texte.
Mais vous dites bien que c'est la traduction. C'est la traduction qui est... C'est une transmission.
Ah bah oui, mais ça, c'est ce que dit Berman. Il parle même de la capacité qu'aurait le traducteur de pouvoir opérer un déni ou un désaveu du texte originel. Berman parle souvent du fait que la traduction est une transmission.
D'accord. Donc, c'est ce que vous assumez, donc.
Oui. et enfin, j'assume, vous savez, moi je suis dans une équipe. Ma position dans ce livre n'est pas celle que j'occupe dans le travail commun avec Jean Laplanche, Pierre Cottet et François Robert dans l'équipe de révision. C'est-à-dire que je suis une personne qui a un avis consultatif lorsque je montre la circulation des signifiants, mais comme on ne peut pas obéir, comme je vous dis à chaque fois, on ne peut pas les restituer tous, donc je suis dans une position plus de retrait. Mais dans ce livre, je veux montrer justement ma passion de la circulation des signifiants.
Merci Jeanne-Marie Altounian. Je rappelle donc votre livre « L'écriture de Freud » aux éditions PUF. C'était les Vendredis de la philosophie, en partenariat avec le Collège international de philosophie, présenté par François Noudelman, à la réalisation Pierrette Perronneau et Monique Vigné. Et place à la musique.
Dem Schmied, an den Kaukasus befestigt.
Wo ein Hundskopf,
wo ein Adler,
wo ein hundsköpfiger Adler
von seiner Leber.
Wo ein hundsköpfiger Adler
täglich von seiner Leber.
Ein hundsköpfiger Adler täglich von seiner immer wachsenden Leber aus.
Aus.